Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public et au frais au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité littéraire avec la tresse de la critique. J'ai nommé Patricia Martin des Petits Matins du Week-end de France Inter, Nelly Caprielian des Inrecuptibles et aussi cet été de France Inter puisqu'elle va animer, chère Nelly, pendant le mois d'août, tous les soirs à 18h, le mag de l'été. Nelly se lance dans la radio quotidienne. Bienvenue dans la maison.
Merci.
Avec Jean-Claude Raspienjas de la Croix, le vénérable Michel Crépu. J'arrive plus à dire vénérable depuis que j'ai vu le film de Barbet Schroeder sur un moine qui n'est pas très tendre.
Oui, je ne l'ai pas vu le film.
Disons le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. On parle ce soir de la tresse, mais également du troisième volume de Vernon Subutex de Despentes, des Jours enfuis de Mackie Ornay, de L'Ordre du Jour d'Éric Vuillard, mais aussi du Tour du Monde du Roi Zibeline de Jean-Christophe Ruffin dans Le Courrier de la Semaine. Stéphane Maéo nous écrit: vous m'avez enchanté à parler du dernier livre d'Anna Gavalda, Fendre l'armure, ou dilettant. Je suis une fan inconditionnelle depuis 1999, date de la sortie de son premier recueil de nouvelles. Et j'ai retenu comme Olivia la phrase: nous vivons une vie, nous en rêvons une autre, mais celle que nous vivons est la vraie. Et c'est signé Sam Lépistolière de Fougères. En revanche, Pascal Hénard de Bourg-les-Valence n'a pas aimé Fendre l'armure, dont le style rabaisse les nouvelles au niveau d'une écriture de gare. Ce n'est plus Fendre l'armure, c'est démolir un style avec un registre populaire et des mots grossiers, mais il sauve une nouvelle qui met point de vie, qui prend de l'ampleur lorsque l'on a à la maison, nous dit-il, un koala qui le soir, avant de se coucher, veut sa comptine bateau sur l'eau. Et puis très colère également, David Erenval-Mallet de Nantes, sur le conseil des critiques du masque. J'ai acheté et puis lu Fendre l'armure. J'ai détesté sa dégouline de pathos, les histoires sont mièvres, absence totale de style, c'est d'une platitude à faire passer la Beauce pour un massif montagneux. Je ne comprends pas vos critiques, d'ordinaire si acerbes et intransigeants, et qu'ils fassent l'impasse sur une telle absence d'écriture. Fabrice Hamchin, qui est écrivain, qui habite Malakoff, est tout à fait d'accord avec le conseil de Jean-Claude Raspienjas en fin de masque. Le roman d'Agnès Clancier, Une trace dans le ciel, ça c'était chez Arléa, dont l'héroïne est l'aviatrice Maryse Bastier, est superbe. Elle fut une femme libre, d'un courage indomptable, et battut une foule de records du monde, dont celui de durée en vol. Et puis pendant la guerre, elle a fait partie de ces femmes qui sont entrées dans la résistance. Clancier a parfaitement saisi sa personnalité hors norme. Enfin, une évocation d'un joli souvenir par Michel Leroy, qui habite Livry-Gargan et qui était élève au collège Jean Jaurès de Livry dans les années 60. Cher Masque, juste ces quelques mots pour vous dire comment m'est venu le goût de la lecture et la rencontre avec un prof pas comme les autres. Ce nouveau prof ne portait pas de blouse, mais un costume noir, et il fumait à la récréation. Il avait disposé une bibliothèque au fond de la classe et il nous faisait écrire des textes libres. Un jour, il a prononcé le mot « surréalisme » comme le nom d'un continent inconnu, et ça nous a fait rêver. Je me souviens aussi des poèmes, nous dit Michel Leroy, c'était du Jean Cayrol, je crois, bien plus tard. Quand j'ai lu Garcia Marquez et Solzhenitsyn, j'ai vu son nom sur la couverture. Je n'ai pas compris tout de suite, mais c'était bien lui, c'était mon prof. En classe de 5e, il était devenu éditeur, c'était Claude Durand. Merci prof, merci à l'éditeur qui ne saura jamais combien les livres me sont devenus des amis indispensables. Et c'est vrai que Claude Durand était éditeur, était traducteur, romancier, et il est mort le 6 mai 2015. Voilà, on l'attendait, il est sorti le 24 mai. Pour trôner aussitôt dans les meilleures ventes. C'est le troisième et dernier volume du polar punk de Virginie Despentes. Vernon Subutex chez Grasset, les aventures de ce disque RSDF qui zonnait dans Paris ont commencé, je le rappelle, en 2015. On a appris à connaître notamment La Hyène, Kiko, Olga, Lydia Bazouka et les autres. 2 ans plus tard, Subutex est devenu le DJ et presque le gourou d'une bande d'utopistes désabusés qui se retrouvent dans des lieux désaffectés pour des rêves nocturnes qu'ils appellent des convergences. Mais l'harmonie, comment dire, précaire du groupe va voler en éclats pour des raisons que je vous laisse évidemment découvrir. Au bout de la série, la conclusion est plutôt amère. On ne la raconte pas. C'est aussi, j'oubliais, un roman sur la France d'aujourd'hui. Hein. Il y a les attentats de Charlie, du Bataclan. Il y a aussi les manifs de Nuit debout à la République. Bref, il y a la France de ces dernières années dans ce troisième volume de Vernon Subutex. Jean-Claude, ça t'a plu?
Oui.
Autant alors, que les précédents.
Alors, un tout petit peu moins, mais beaucoup quand même. Et dès la première phrase, la première image de la première phrase, elle écrit « La gare de Bordeaux est en rénovation, une forêt de tréteaux lui remplit le ventre ». J'ai trouvé ça tout à fait juste.
Ah bah ça a touché le Bordeaux actuel.
Oui, mais c'était tout à fait juste, c'était exactement ça à ce moment-là. D'entrée, il y a le regard d'un gamin qui se promène sur les quais, qui est rempli de haine, alors déjà, c'est posé. Moi, plus que ce que tu as dit, c'est-à-dire plus que les événements, les attentats et tout ça, ce qui m'a intéressé, c'est une série de scènes comme ça, très tranchantes. C'est du bazooka, quoi, tout le temps avec elle. Je trouve que la fluidité est un peu étrange, la construction est un peu étrange. En revanche, il y a de quoi faire son miel, de plein de scènes, plein de choses extraordinairement percutantes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet ce panorama de la France d'aujourd'hui, en dehors des choses dont tu as parlé.
Mais depuis le début, comment dire, l'intrigue pseudo-policière a toujours été moins importante que les descriptions qu'elle faisait de.
C'est ça. Et donc, il y a une série comme ça de tableaux, comme ça d'instantanés de la France d'aujourd'hui que j'ai trouvé extraordinairement percutant. Les passagers dans les trains aujourd'hui complètement absorbés dans leurs écrans et qui sont complètement indifférents au monde, aux autres. La façon dont ces écrans personnels nous bouffent le cerveau, s'emparent de nos pensées, nous emprisonnent, ce petit rectangle comme ça, où il n'y a pas de marge, très important. Et il y a ce qu'elle sent aussi du durcissement de la ville de Paris. C'est-à-dire de ce que cette capitale devient de plus en plus dure, où l'agressivité est à fleur de peau. Elle dit même que l'odeur de la ville a changé. La douceur perdue, ils essaient de retrouver dans leur fameuse rave party, et la panne d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. Alors, Nuit debout, c'est une sorte de feu de joie sans lendemain. C'est-à-dire, c'est des utopies qui débouchent sur rien. J'ai lu dans la presse qu'on trouvait qu'elle faisait l'éloge de Nuit debout. Moi, je ne l'ai pas lu. J'ai lu, au contraire, quelque chose de très, très amer, de très
triste. Non,
elle
en a parlé dans ses entretiens, mais dans le livre, ce n'est pas du tout.
Oui, c'est ça.
C'est pas un panégyrique.
La tolérance zéro aujourd'hui, qui est le stade ultime du capitalisme, ça c'est tout à fait bien vu. La dérive de l'école sous la menace des parents d'élèves.
T'as tout aimé alors ?
Non mais oui, bien sûr. Alors... C'est juste une sorte d'engrenage de construction du récit où je me suis pas retrouvé comme dans les deux premiers.
À mon avis, c'est parce que tu savais que c'était le dernier.
Non, c'est pas ça. Voilà. Et alors juste quand même une chose, parce que je trouve que c'est une notation tellement magnifique et tellement étonnante chez elle. De nos jours, on peut passer des mois et des mois en compagnie de quelqu'un sans savoir si son écriture est ronde, penché, illisible ou élancé. C'est extrêmement juste.
Patricia ?
Plus c'est noir, parce que c'est quand même le monde a changé et empire hein, depuis le premier volume, plus c'est noir et on a l'impression
le premier,
que...
c'était pas rose.
Oui,
hein,
enfin quand même, là il y a eu quand même les attentats, enfin il y a un poids supplémentaire et plus les mailles sont serrées et plus finalement il y a de résistance. Et je trouve que ce Vernon au milieu de tout ça, en plus, alors tu parlais de la scène du début, mais enfin il regarde le paysage, il est content, il est assis, il fait partie de ces gens qui vous ont quitté dans le train, vous vous dites mais il ne pourrait pas faire autre chose, prendre un livre, pas forcément regarder un écran, mais prendre un livre, ne pas se laisser aller à la vacuité de ses heures. Mais il est là, il est content, et il est absolument à l'opposé des injonctions d'aujourd'hui où il faut avoir des plans, des projets.
C'est pas un livre très macronien.
Non, c'est sûr. Ça va à l'encontre finalement des qualités viriles, on va dire, parce qu'il ne produit rien. Il est juste sympa. Il est pas suspicieux, alors qu'on est quand même dans une époque aussi où on est de plus en plus suspicieux. On suspecte le voisin, on regarde s'il n'a pas un bazooka, s'il n'est pas en train de vous piquer votre portefeuille ou votre femme. Et il y a l'idée terriblement sympathique quand même de l'équipe, je trouve, et du collectif, de la bande. Et ça, c'est absolument, absolument génial. Et c'est là où elle est très consolante, je trouve, dans ses écrits. Et ces convergences, donc ces fêtes où finalement, mais où on ne picole pas particulièrement, on ne se drogue pas, etc. On n'a pas besoin d'addiction, quelle qu'elle soit. Et où finalement... Il y a une intimité corporelle, chacun devient le corps de l'autre. Il y a une espèce de fraternité, rien que cette possibilité-là, même si ce n'est pas une réalité.
Ça te fait rêver, ça. Oui.
Rien que cette possibilité-là,
devenir le corps de l'autre.
Me ravit. Absolument, ça me ravit.
Nelly.
Oui, moi je l'ai aimé autant que les autres. Et presque, moi c'est peut-être le deuxième que j'adore, mais qui est pour moi peut-être le moins surprenant. C'était évidemment le premier, pour moi le plus surprenant. Et celui-là aussi, parce qu'il prend une espèce d'ampleur en passant par un biais qui est une forme de science-fiction ou de métaphore un peu fantastique. Il prend une forme mystique, en fait, et philosophique. Et je trouve que là, elle prend de l'ampleur. Voilà, il y a quelque chose que ça décolle complètement. Alors, c'est vrai qu'on peut pas raconter, comme tu disais,
non,
Jérôme.
Il y a pas mal de choses
qu'on peut.
C'est le problème de ce genre de livre.
C'est le problème, oui, qui est un
non,
peu
mais c'est
le
pas très
problème.
Grave.
Moi, d'abord, j'adore son écriture. Ça qui n'a pas changé en trois livres, c'est toujours aussi fort. C'est-à-dire que, à mon sens, elle a réussi à trouver une langue qui est à la fois la sienne. Il y a que Virginie Despentes qui écrit comme ça. C'est-à-dire, on ouvre le livre, on sait que c'est du Despentes. Et en même temps, qui rejoint la langue qu'on utilise quand on se parle à nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on pense en notre fort intérieur, je trouve que c'est cette langue. En tout cas, moi, je la retrouve, qui est un peu débarrassée qui est à la fois très posée, en même temps, un peu débarrassée de toute forme de politesse ou d'apparence. Et puis moi, j'aime, pour revenir à ce que disait Patricia, cette histoire de groupe. C'est-à-dire, j'aime qu'elle crée les convergences, j'aime qu'elle crée un collectif qui, au fond, se débrouille tout seul, n'embête personne, ne demande pas d'argent, voilà. Et pourtant, ça va emmerder un peu tout le monde, quoi, dans ce livre. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt menacés. Ils sont sans arrêt menacés déjà
pour cause, puisqu'ils ne sont pas intégrés. Donc,
Oui, mais ils pourraient ne pas être menacés. Enfin, tu vois, ils pourraient juste on pourrait juste les laisser vivre, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup cette façon dont elle montre que dans une société comme la nôtre, où en apparence il y a une grande liberté, finalement, dès qu'on est un peu trop libre, ça fait tâche et ça n'est pas possible. Et pour finir, j'aime beaucoup cette espèce de foi qu'elle porte à la fois la fin, enfin c'est très très noir, hein, c'est très amer, mais en même temps il y a un espoir qui est dans en effet le collectif.
Oui, mais enfin que les gens ne s'attendent pas à une happy end non plus. Hein.
Non, et d'ailleurs on s'arrêtera là, faut pas en
voilà.
dire trop. Ouais, ouais.
Allez, Michel.
Bah, d'abord je trouve qu'elle a fait des progrès considérables.
Bah, tu en parles comme d'une écolière, enfin c'est pas... c'est fini, on parle plus de dépendre comme ça maintenant.
Non, mais moi je trouve que par rapport au livre précédent, elle a fait des progrès. Voilà, on n'est pas un conseil de classe, je suis d'accord. Mais j'ai ressenti dans
les. Tu lui donnes une bonne note.
Oui, absolument, je donne une bonne note. J'ai ressenti un allant. Quelque chose d'assez léger, d'assez rapide et qui me surprenait par rapport au livre précédent qui était quand même un peu lourd.
Tu parles de la série là ?
Je parle de la série, oui.
Ah non.
Et alors c'est intéressant parce qu'en même temps c'est une moraliste, Virginie Despentes. Le calviniste le plus impitoyable est nul et mou devant le regard acéré qu'elle porte sur la réalité, sur les gens. Et donc cette espèce
elle a pas de jugement, elle porte aucun jugement. Au contraire, elle a une empathie, je trouve, pour les gens.
Oui, mais énormément, dans beaucoup de passages, elle donne toujours l'impression de récapituler un peu comme ça, provisoirement, de faire un petit bilan de ce qu'elle a observé. Enfin, il y a beaucoup.
Provisoirement, tu as raison.
Oui, bien sûr.
Mais c'est pas une moraliste. Non.
C'est une moraliste du romanesque. Elle ne fait pas de traité de la misère humaine, etc. Mais il y a un côté comme ça qui est absolument, je trouve, très très cousin. Du regard du moraliste qui observe l'espèce humaine.
Sur la politique, elle est moraliste. Enfin, il y a quand même une forme de...
Mais c'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas une calamité d'être moraliste.
Non, elle est critique. Elle est,
je vois ça plutôt comme une qualité, à vrai dire. Et j'aime bien cette espèce de paradoxe entre, d'un côté, la sévérité du regard, le côté acéré et noir du regard, comme un vrai moraliste, et en même temps... quelque chose d'assez généreux, quelque chose d'assez joyeux.
C'est pour ça que ça plaît à tant de lecteurs. Ce qui est formidable, d'ailleurs, c'est que ce sont des lecteurs de toute génération. Mmh. Moi, je me souvenais de la Virginie Despentes de Baise-moi, qui avait
le progrès de Baise-moi
L'évolution, disons.
L'évolution.
Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde s'arrache Despentes comme si elle était devenue une romancière.
Et c'est devenu une icône populaire.
Absolument. Absolument. Ouais. Allez, donc c'est chez Grasset, c'est Vernon Subutex 3. L'autre trilogie de ce soir, c'est celle de l'écrivain américain Jay McInerney qui publie à 62 ans Les jours enfuis. C'est traduit par Marc Anfreville aux éditions de l'Olivier. Le premier tome paru en 92 est devenu tout à fait culte, n'est-ce pas Nelly ? C'est 30 ans et des poussières. avec lequel McInerney inaugurait les aventures de Russell et Corinne Calloway, bientôt suivi de La Belle Vie, 25 ans plus tard. Le couple vibrillonnant de New York découvre les joies de la cinquantaine dans ses jours enfuis, une chronique tout à fait désenchantée, on peut dire, oui, de l'Amérique au temps de où Clinton et Obama se disputaient l'investiture. Je veux dire, une époque qui, par rapport à aujourd'hui, paraît quasiment paradisiaque.
Innocente, hein.
C'est du nanan.
C'est du nanan. Russell et Corinne habitent un loft à Tribeca, au sud de Manhattan. Ils ont des enfants. Lui essaie de faire prospérer une maison d'édition indépendante et croit découvrir un petit prodige du Tennessee. Elle se consacre à une association humanitaire. Quand elle n'écrit pas des scénarios, elle retrouve l'homme riche avec qui elle avait eu une liaison au lendemain du 11 septembre. Le couple va un peu vaciller tout en courant, comme Patricia, les vernissages, les soirées de gala. C'est un peu les illusions perdues, mais mixées par, je dirais, à la fois Fitzgerald et Tom Wolfe. Ça, Michel, est-ce que tu as aimé ce volume ?
Alors, c'est clair que effectivement, Balzac n'habite plus Paris, mais réside à New York.
À Tribeca.
À Tribeca.
Attention, oui. Nuance. Hein.
Effectivement, nuance. Enfin, bon. Comment dire tout ça est magistralement construit, selon les bonnes lois de la construction romanesque héritées de la Bibliothèque française, Flaubert, Balzac, Stendhal.
Je sens poindre un mais.
À peine, non, simplement, non, c'est pas un mais.
Tu veux dire les Américains nous copient ?
On leur a tout vendu, et ils font très bien le travail, mieux que nous, à beaucoup d'égards, donc non, il n'y a pas de problème avec ça, c'est la loi.
Non, mais je ne te sens pas enthousiaste, tu parles...
Eh bien non, je ne suis pas enthousiaste.
Voilà.
Je ne suis pas enthousiaste, et je me suis posé la question, mais pourquoi n'es-tu pas enthousiaste, Michael ? Et la réponse est que, au fond, as a reader, comme lecteur, je me demande si j'ai envie d'être partie prenante, si j'ai envie de m'embarquer avec cette histoire, l'histoire de ce couple, etc. Est-ce que ça m'intéresse vraiment au point tout à coup d'avoir envie de vivre avec eux, de manger des céréales le matin avec les enfants, de discuter avec la fille, des trucs d'édition.
Tout dépend, etc. Cela dit, si tu les avais connus dès le début ou pas. Ça compte beaucoup, ça.
Alors, quand remonte ton premier petit déjeuner avec...
Très honnêtement, là, j'ai pris le wagon en marche, donc je suis un...
Non, mais t'avais lu 30 ans et des poussières, par exemple, ça t'avait marqué
On en a parlé ici, au masque ou... Si on en a parlé au masque, je l'ai lu. Mais...
C'était en 1992, je ne crois pas que tu étais entré...
J'étais peut-être pas encore...
Encore dans cette...
Donc voilà, donc c'est du super boulot... romanesque, mais...
T'es pas vendeur, hein ?
Non, je suis pas... J'ai pas pris le
train. Je vous rappelle qu'on est le 2 juillet, que les livres dont on va parler ce soir, on les conseille ou pas à ceux qui ont besoin de mettre des livres dans leur
valise. On me dit c'est pour la plage. Moi, je veux bien que ce soit pour la plage.
Mais quelle plage ?
Mais quelle plage ?
Bon, allez,
plage Calais ou plage de sable fin ?
Nelly.
Non, mais moi, je le conseille, évidemment, et pas simplement pour la plage. D'ailleurs, je comprends pas ce concept. Il y aurait que l'été, que les gens lisent. Tout le reste de l'année, ils sont complètement idiots.
Enfin, non, mais...
Je ne comprends pas, je trouve ça insultant.
Sauf que les gens lisent plus...
Sur la plage, t'as le vent, t'as les grains de sable, t'as l'indice en vin qui colle.
Sur la plage, c'est une formule, je veux dire, à la montagne.
Oui. Ah bon, bah ça va mieux. Bon, d'accord.
Sur un bateau, à cheval, où tu veux, mais tu
même
vis.
En beau, en beau.
À cheval, Jérôme.
Je me lis.
Mais c'est dangereux.
Et tu vas tout droit, c'est bien.
Non, mais je le conseille, évidemment que je le conseille, évidemment que je le conseille. Déjà, les premières pages sont absolument magnifiques sur cette espèce. Déjà, elle distille toute une forme de mélancolie très fitzgeraldienne sur cette façon de dire. Mais oui, les premières. J'ai pas dit le reste, Michel, attends, j'y viens. Okay. Mais les premières pages avouent que sur cette façon de voir, de dire tout le monde avant voulait aller à New York, c'est là où les écrivains vivaient, tout ça. Bon, moi, c'est nul ce que je dis, mais là. La première page, enfin, les premières pages qui développent ça de façon beaucoup plus belle et plus longue, je trouve ça tout de suite nous met dans une ambiance extrêmement poétique et extrêmement nostalgique. Ensuite, alors c'est vrai, je suis d'accord avec Michel pour dire que c'est pas un grand styliste, Jim McInerney. En revanche, la construction est absolument
nickel,
virtuose.
Et les scènes, un raconteur, surtout.
Et les scènes et la psychologie.
Oui, mais alors,
il y a raconteur et raconteur. Il y en a d'autres dont on va parler ce soir que je n'aime pas. Mais celui-là, je trouve que c'est extrêmement brillant. Parce que d'abord, c'est hilarant. Il y a une scène, enfin, il y a des tas de scènes, il y a des personnages, le jeune homme qui est ce jeune écrivain prodige, qui vient de la Cambrousse, qui comprend rien aux règles de la haute société à Manhattan, qui écrase le furet à un moment donné, qui se fait virer, le furet domestique des Calloway. Je trouve tous les problèmes des couples de, voilà, qui ont passé 20, 30 ans ensemble, pour certains, qui sont un peu là, qui ont 50 ans, qui vieillissent. Et puis, je trouve.
Ça t'a intéressé vraiment?
Comme, oui, ça m'a passionné, absolument. J'ai beaucoup plaint les autres. Moi, j'ai échappé à ça.
Tu veux dire les gens mariés?
Les gens mariés depuis 30 ans.
Merci.
Non, j'ai dit certains.
Certains, oui.
Certains. Non, mais vous, je sais que c'est le grand amour en permanence.
Tu es bien renseigné.
Non, mais pour revenir au livre, arrête, Michel, de me déconcentrer de ce livre que tu n'as pas aimé. Non, mais les scènes comme ça sont absolument formidables. Je trouve que ce que ça dit de l'époque aussi, un peu comme le Dépente, mais d'une autre façon, ce couple qui, en gros, se réveille un matin et se rend compte que parce qu'ils ont cru en leurs idéaux, ils sont restés fidèles à leurs idéaux de jeunesse, qui étaient l'amour et l'art, se réveille un matin et voit que tous leurs copains ont fait fortune dans les hedge funds et dans la finance et s'achètent des maisons somptueuses, etc. Bah, en même temps, ce qui me fait un peu rigoler, c'est que chez Jay McInerney, quand on a des problèmes d'argent, on vit quand même dans un loft à Tribeca.
Mais
le problème, c'est qu'on n'a pas
On n'a qu'une salle de bain pour quatre.
On n'a qu'une seule salle de bain pour quatre. Mais je trouve aussi que cette construction, pour finir là-dessus, est absolument brillante parce qu'il a enfermé cette société de grands bourgeois à New York que dans des lieux clos. C'est-à-dire qu'on passe d'un restaurant à une boîte de nuit, à une fête de charité. Et je trouve qu'il y a un côté très Truman Capote. En fait, pour moi, c'est plus Truman Capote. C'est plus le prière exaucé de Truman Capote. Et Jean-Claude, excuse-moi, je déborde sur ton temps. C'est plus le prière exaucé de Truman Capote que Truman Capote n'a pas réussi à écrire. Et au fond, Jay McInerney l'a écrit.
Jean-Claude.
Oui, je suis d'accord sur le tout début. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, de bout en bout. Et pour le coup, j'avais envie de passer du temps avec eux. J'étais content de les voir vivre. J'étais malheureux de ce qui leur arrivait. Voilà. Et j'aime beaucoup ce livre qui, je trouve, est un livre sur l'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'être New-Yorkais? Voilà. Je trouve que c'est un livre qui raconte ça. Être New-Yorkais et pas d'être ailleurs. De Tribeca, mais après il va monter vers le nord. Et tous les échanges géographiques, où ça se passe, où l'argent arrive, tout ça, les galas de charité, la mode gastronomique, se montrer les codes, en être ou pas. C'est-à-dire le jeune écrivain n'y est pas. Mais si, et je trouve que c'est très 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 bien amené, la mauvaise conscience qui conduit à faire de l'humanitaire. C'est-à-dire, c'est tout ce truc un peu grinçant de ce qu'est cette ville, sur fond, en effet, de mélancolie, de ce qu'a été New York, qui était la Mecque de la littérature. On y venait pour ça. Moi, j'aime énormément ce livre. J'en aime la description de la comédie sociale. C'est une vraie comédie sociale, qui est avec beaucoup d'apparence et beaucoup de fausseté. Et je trouve que c'est très, très bien écrit. Et puis, une chose qui m'a beaucoup touché, je trouve fort dans le livre, c'est un livre sur le constat un peu amer que le 11 septembre n'a rien changé. Voilà, ça n'a rien changé. Autant dans le premier, on avait quand même ce souffle de cette tragédie. Là, c'est retombé, les cendres sont retombées, puis finalement tout le monde est redevenu ce qu'il était, c'est-à-dire au fond.
C'est peut-être ce qu'il y a de plus tristement vrai dans ce livre.
Oui,
moi, un peu contrairement à Annie, je trouve que c'est un livre beaucoup plus triste que tu dis qu'il était plein de scènes drôles, mais je trouve que
le fond est une
mélancolie terrible.
Une immense mélancolie, désenchantement.
Et ce que j'en aime, c'est le souffle du grand roman urbain, et c'est tellement américain. Voilà, je trouve que c'est.
Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas tellement l'équivalent en France. Patricia.
Oui, c'est vrai, c'est un mélange constant, comme ça, un télescopage entre des scènes hilarantes. Tu parlais de la gastronomie, mais les scènes de restaurant, il y a notamment un restaurant japonais avant-gardiste qui n'apparaît nulle part, où il faut être coopté, etc. Mais c'est à hurler de rire, et où tu manges des crevettes sautantes, elles sautent dans ton assiette. C'est raconté d'une manière très très drôle, et en même temps c'est aussi le roman de la gueule de bois des lendemains qui déchantent, où tout à coup on se réveille un beau matin, on a 50 ans et on se dit flûte, il y en a quand même une bonne partie qui est déjà et ça devient de plus en plus compliqué de vivre quand on vieillit.
Ça, c'est, ah oui, il le montre sans blague.
Oui, sans blague. Faut-il le montrer. Il le raconte aussi par le biais de tensions. C'est un romancier qui sait décrire les tensions psychologiques d'une manière extraordinaire. Ce couple, c'est à la fois une histoire individuelle, mais c'est aussi le socle d'une société. Ce couple est décrit, mais merveilleusement. Et tu sais jamais, c'est comme un coup de poker. À un moment donné, tu sais pas dans quel sens ça va aller. Est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Tu le sais pas. Il tient.
Je m'en fiche.
Ah bah non, on s'en fiche. Ah bah, pas du tout. Et je trouve qu'il peint les femmes. ils racontent les femmes d'une manière absolument extraordinaire.
Est-ce que j'ai envie de savoir s'ils vont rester ensemble ou pas?
Il faut quand on est une nana, il faut remercier qu'un homme puisse avoir un œil comme ça sur les femmes. Il en parle merveilleusement bien. Alors que les hommes sont plutôt des grands ados. Un peu immature.
Comment ils s'appellent?
Les femmes sont merveilleuses.
Américain qui est publié aussi à l'Olivier, qui est 10 fois supérieur.
Ah oui.
Salter.
James Salter. Voilà. Salter. Ok.
C'est la même veine.
C'est pas du tout la même veine. Salter, c'est la concision.
McInerney est exactement dans la veine.
Pas du tout dans la concision. On est dans la chronologie interminable du bol de céréales qui n'en finit pas.
Mais non. Mais tu l'as lu,
je n'ai pas la patience.
Mais il y a des
ça.
Céréales dans le livre.
Un moment.
Ils prennent quelques petits déjeuners.
Michel dit non au bol de céréales.
Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le livre?
Parce que c'est un standard de la littérature américaine. La scène du matin avec le père qui discute.
L'obsession de la nourriture, la boulimie, l'anorexie. Enfin, c'est quand même aussi des trucs qui touchent les sociétés actuelles. Je suis désolée.
Les jours enfuis, c'est donc Jay McInerney et c'est aux éditions de l'Olivier. Alors maintenant, un premier roman qui a un succès inouï. Il faut que vous me l'expliquiez.
Pardon.
Personnellement, j'ai du mal à comprendre le succès. C'est donc ce premier roman qui s'appelle La Tresse. C'est signé Laetitia Colombani, c'est chez Grasset. On me dit que ça avoisine les 100 000 exemplaires vendus et qu'il a été traduit dans 16 ou 17 pays déjà. Elle est actrice, elle est scénariste, elle est réalisatrice. On lui doit deux films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, c'est À la folie, pas du tout, et Mes stars et moi. Et son roman raconte en les entremêlant, mais c'est pas léger, le destin de trois femmes, Smita, Julia, Sarah, qui sont de conditions différentes, et dans trois pays, l'Inde, l'Italie, le Canada. La première, pour aller vite, c'est une intouchable, elle est mariée à un chasseur de rats, elle nettoie les latrines du village, elle ramasse la merde des autres à main nue, écrit Colombani, et puis elle s'enfuit avec sa fille de 6 ans, pour laquelle, ça on peut la comprendre, elle rêve d'un avenir digne de ce nom. La deuxième, c'est une Sicilienne. Elle travaille à Palerme dans l'atelier paternel de traitement de cheveux qui est au bord de la faillite. Et le père, lui, il est au bord du pire. Et la troisième, c'est une avocate de Montréal. Très. Pourquoi tu rigoles?
Parce que rien que la façon dont tu racontes, ça te donne vraiment envie.
Je résume.
Oui.
Là, c'est tout à fait honnête.
Non, mais c'est le ton.
Et la troisième est une avocate de Montréal. Superwoman, mère de 3 enfants, 2 fois divorcée. Et qui apprend, la malheureuse, qu'elle a un cancer du sein. Alors, à Libé, on a jugé que c'était pas un roman, que c'était un roman, justement. Ils expliquaient le succès en disant que c'était très macronien parce qu'ils laissaient entendre que tout est possible, même ce qui paraît impossible, et que c'est plutôt un roman bienveillant, si je devais ajouter un mot personnel. Mais c'est vrai que l'incroyable succès qu'il rencontre me laisse un tout petit peu pantois. Patricia, peux-tu m'expliquer?
Non, j'aurais pas cette prétention. C'est pas que tout est possible. Moi, peut-être ce qui plaît aussi, c'est que ces femmes ont une... elles agissent sur leur vie. Elles sont pas des victimes, alors qu'elles pourraient dire qu'elles sont dans des situations difficiles. Il y a une victimisation quand même à l'heure actuelle de la société qui est assez, assez prégnante. Et elles sont pas du tout comme ça. Et elles sont plutôt attachantes. Moi, je trouve qu'il y a une certaine immersion. Quand t'es dans le cabinet d'avocat, tu y es vraiment. Quand t'es dans les rues en Inde où effectivement il y a de la misère partout, tu y es vraiment. Dans l'atelier sicilien, tu y es vraiment. Moi, je serais pas sévère vis-à-vis de ce roman. C'est pas un grand roman, mais pour revenir à ce que Nelly adore, un roman d'été que tu lis comme ça sur la plage, pourquoi pas? C'est pas raté. Je trouve pas ça raté. Ça pourrait être assez grotesque si à la fin. Non, mais le fait qu'à.
C'est ça la question.
La façon dont ça se noue, disons, à la fin, est plutôt. Sinon, ce serait très scrogneux.
Mais c'est
une très
manière assez sommaire, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est un peu sommaire comme confection.
En plus, c'est trois portraits en un seul bouquin. Ça n'a pas la concision et la force d'une nouvelle à chaque fois.
Souviens-toi des trois femmes puissantes de Marine Diaye.
Mais ça, c'est incomparable. Oh, non, mais bien sûr. Oui, d'accord. On n'est pas dans. C'est pas la même catégorie. Ouais. Mais ça, moi, je l'ai lu sans.
Tu as fait un bruit buccal.
Oui, mais c'est parce que le micro est.
Oui, je crois que j'avais mal entendu, mais toi aussi, t'as entendu.
Le micro, je suis tout près du micro à l'heure actuelle.
Bon, enfin, écoute. Alors,
il restitue tout ce que
puisque
je pense.
Puisque tu as le micro, Michel.
Alors, d'abord, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut écrire un livre aussi facilement?
Comment ça, facilement?
Mais je sais pas, j'ai eu l'impression d'une. On passe d'une histoire à l'autre. Tout ça a l'air d'avoir été écrit dans une sorte de facilité.
Je crois pas du tout. Je crois qu'elle a beaucoup travaillé. Hein. Moi,
non, mais certainement. Non, mais c'est pas non plus une critique. Je dis simplement, je constate simplement un effet d'aisance comme ça, assez étonnant. Ah, oui, c'est pour essayer de répondre à la question de Jérôme, pourquoi ça marche. Parce que effectivement, on passe d'une histoire à l'autre comme ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer.
C'est vrai.
Les choses se déroulent. Et alors, tu vois, comme la vie est drôle.
Ah oui. Je le disais l'autre jour à un ami, la vie est drôle.
La vie est quand même drôle. Ce qui m'a le plus intéressé dans le livre, c'est l'histoire de la New-Yorkaise. Hein, tu vois.
De la Canadienne.
La Canadienne. Elle m'a donné l'impression d'être à New York.
T'es resté à Jim McInerney, là, parce que...
Oui, ça s'est superposé.
T'as bien aimé ses tailleurs et son maquillage impeccable?
Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Non, c'est-à-dire que j'étais... C'est elle qui m'intéressait, sur les quatre, là. Les autres m'ont touché.
De toute façon, tu peux pas faire une tresse avec quatre lignes de cheveux. Tu peux pas. T'as jamais fait de tresse de ta vie.
On parle de la tresse.
L'indienne, l'italienne... La canadienne, ok, j'ai cru qu'elle était new-yorkaise. Et c'est tout, ça s'arrête pas.
Bah
bon.
Oui.
Eh ben, j'étais touché par l'italienne, très touché. J'étais très touché aussi, naturellement, par cette jeune indienne, mais comment ne pas l'être? Enfin, on est un monstre.
Et t'as été ému par la norvégienne ou pas du tout?
Tu m'auras pas comme ça. mais la canadienne, alors, super.
Jean-Claude,
C'est un livre déconcertant.
C'est déconcertant, hein.
Ouais, c'est déconcertant. Et pour finir, embarrassant. Voilà. Donc c'est déconcertant parce que cette histoire de trois femmes là, bon, pourquoi pas, sauf qu'elle se met au milieu à chaque fois. Il y a des chapitres, des tout petits chapitres pseudo-poétiques où elle est en train d'expliquer que voilà, elle est prise dans cette histoire. Enfin, c'est un peu étrange. En fait, c'est un roman de Polaroid. C'est-à-dire que il faut quand ça se met en mouvement, ça va plus. C'est-à-dire quand elle fait un Polaroid sur chacune des héroïnes préférées de Michel, ça va. Mais dès que ces héroïnes se mettent en mouvement, ça ne va plus. Et le problème d'un livre, puisqu'on est là un peu proche de ça, c'est aussi le style. Et alors là, le problème, c'est qu'elle a un problème avec les métaphores. Et le problème, c'est qu'elle en use beaucoup. Oui, mais dès le premier, tu peux faire attention. Pour l'amie new-yorkaise de Montréal de Michel. Pour dire qu'à un moment, elle est tombée dans les pommes pendant un truc au tribunal, Sarah s'est effondrée sur elle-même à la manière des tours jumelles de New York qu'on disait inébranlables.
Oui, oui. C'est sûr que c'est un peu...
Alors, un petit peu plus loin, malgré ses allures de garçonne, elle dégage un mélange d'innocence et de sensualité qui ne laisse pas les représentants de la gente masculine indifférents. Je suis sûr que même toi, à la NRF, tu le prends pas, ça. Je suis sûr.
Non, mais tu peux
un
pas.
De ces personnages,
tu sais très bien que tu peux
un
pas
de ces personnages...
avec un truc de l'extrait.
Attends, mais c'est pas fini. Oui, mais c'est sur preuve. Parce que sinon, c'est gratuit. Ah, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais c'est sur preuve.
La question, la vraie question, Jean-Claude, c'est que tu as raison. Tu as raison. C'est mal écrit, etc. Mais
t'aurais quand même bien aimé dîner avec la.
Ce qui me fascine, c'est que malgré tout ça, tout à coup, je suis embarqué et j'ai envie de savoir si elle va tenir le coup ou pas.
Michel.
Oui, Michel. Je suis là.
Oui, mais écoute bien. Un de ces personnages, un de ces personnages s'accoude aux événements pour les regarder passer.
Alors,
je comprends pas. Si tu veux, je comprends pas pourquoi Michel s'en est pris aussi durement à Jim McInerney et tout d'un coup la tresse parce que ça se vend, ça passe. Il faut pas être trop cruel. Enfin, on s'en fout. Enfin, faut surtout pas être trop cruel envers les gens ici présents et les auditeurs qui, si on est un peu trop gentil, vont aller l'acheter et vont peut-être s'en mordre les doigts. Enfin, je trouve ce livre vraiment ni fait ni à faire. Enfin, c'est quand même très 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 mauvais. Moi, j'étais étonnée à quel point c'est mauvais. Surtout comme dit, enfin. Jean-Claude en a très très bien parlé, enfin, de l'écriture. Et l'écriture ne va pas du tout, je trouve ça. La structure hiérarchie scolaire, comme ça, revenir entre trois personnes, avec les chapitres alternés à chaque fois. C'est très scolaire, c'est très appliqué. Je trouve l'écriture, j'ajouterais à ce qu'a dit Jean-Claude, qui est très juste, j'ajouterais cette façon de toujours tout répéter en enfonçant le clou au cas où on n'aurait pas compris. À chaque fois, elle dit, je suis pas venue avec les extraits, mais enfin, elle répète tout comme ça. On était débiles, on n'avait pas compris que. Je pense que la littérature, c'est plutôt un peu d'économie. C'est pas de la pub justement. Quoi. On n'écrit pas des slogans publicitaires. Et puis ensuite, moi, ça me pose un peu un problème. Cette histoire de femmes qui seraient toutes reliées dans le monde par les cheveux et qui s'entraideraient par leurs cheveux. Non, mais c'est pas Macron. Macron n'est pas aussi débile.
En partie du livre de enfin, Sophie Oksanen.
Non, mais oui, absolument. Que déjà, on n'avait pas aimé ici tellement. Mais là, je trouve ça complètement idiot. En quoi les femmes seraient reliées entre elles dans le monde et en quoi par leurs cheveux? En plus, c'est limite sexiste. Enfin, je ne comprends pas déjà tout le propos du livre. Quant à savoir pourquoi ça marche.
C'est aussi le symbole de la féminité.
Pourquoi ça marche? C'est aussi tout simplement. Enfin, on ne se poserait pas la question à ce point. Peut-être qu'on se l'est posé, mais il y a bien longtemps, sur Marc Lévy et Guillaume Musso. C'est parce que c'est. Enfin.
Oui, on est effectivement.
Non, mais tu vois, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'effort à faire pour le lire. On peut le lire dans le métro en 5 minutes. Ça va très vite. C'est bourré de bons sentiments. Et je crois que sans doute aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui en ont besoin. C'est bourré d'espoir. Et pour moi, c'est mensonger. Quoi. C'est une grande publicité.
On a ce sentiment, je ne sais pas si vous l'avez éprouvé, c'est que bon, il y a ces trois femmes, mais elle aurait pu en mettre 35. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il n'y a aucune
elle,
raison.
En plus,
non, ça aurait fait 600 pages.
Non, mais je veux dire que rien ne justifie.
C'est ça le côté, l'impression de facilité. Bon, enfin. Comme ça,
non, mais alors, si ça marche, je pense que c'est précisément ce que tu viens toi de dénoncer, mais c'est ça qui marche, c'est en effet l'histoire de ces trois femmes. Je crois que c'est ça qui marche. Après, il faut pas être en regardant sur le style comme Michel pour aimer ça.
J'ai pas démonté McInerney tout à l'heure. Je disais simplement que je suis resté absent du truc. C'est différent.
Alors,
il y a pas de comparaison. Il y a pas de
comparaison.
La tresse de Laetitia Colombani, c'est chez Grasset. Le tour du monde du roi Zibeline, le nouveau roman chez Gallimard de Jean-Christophe Ruffin, l'auteur de Rouge Brésil, le prix Goncourt 2001, et du Collier Rouge. Et dans ce roman, il réinvente l'histoire que je ne connaissais pas, la vraie histoire de l'explorateur hongrois, le comte Auguste Benjovski. Vous le connaissiez, vous, les uns et les autres, bien sûr. 1746-1786, devenu roi de Madagascar. Sous le nom de Zibeline, il a été initié en Hongrie par son précepteur français à la pensée de Diderot et de Rousseau. Il commence par prendre les armes pour défendre l'indépendance de la Pologne contre les Russes, et puis il est fait prisonnier, il est déporté au Kamchatka, il s'évade avec la fille du gouverneur, Afanasy, qui est l'autre narratrice de ce livre à deux voix. Et après, il y a le Japon, la Chine, la France, et le couple échoue à Madagascar, où Louis XV l'a envoyé pour en faire une colonie, et lui va en faire un royaume. Il va tomber à 40 ans sous les balles des Français. Alors c'est une vie qu'évidemment Ruffin romance, mais je le rappelle, non seulement il a bien existé, mais en plus il a laissé des mémoires dont, semble-t-il, Ruffin s'est inspiré.
C'est publié chez Phébus, apparemment, et qui font 800 pages, un truc comme ça, mais ça, moi, ça donne envie de les lire.
Nelly.
Non, alors, j'ai ouvert après la tresse, et là, je ne pouvais plus. C'est-à-dire que. Non, mais c'est écrit, je ne veux pas comparer hein, les deux, Ruffin et la tresse. Mais je n'en peux plus, là, c'est là où je rejoins. Enfin, je disais tout
de
à
quoi,
l'heure quand.
De quoi tu ne peux plus?
Non, mais j'en peux plus de ces livres qui nous racontent une histoire. Je veux plus que ça quand j'achète un livre.
Ras-le-bol des histoires dans les
livres. Ou voir, moi, je les reçois. Non, mais j'en ai marre. Tu vois, déjà, tu as fait le pitch. Je m'en fous de ce type. Je m'en fous.
J'ai fait le résumé, pas le
pitch. Non, mais pourquoi nous raconter ça en 2017? Mais pourquoi? Non, mais je préférais lire les mémoires de cet homme.
De Benjovski. Le comte
directement. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi le livre en costume? Alors, j'ai fait des tentatives, j'ai essayé plusieurs fois. Et vraiment, ça me tombe des mains. Quoi. Je ne peux pas.
Jean-Claude?
Si. Alors, moi, je me suis passionné pour cette histoire parce que je trouve que c'est un roman. Je ne dis pas qu'il réussit. Je dis que je me suis passionné pour cette histoire parce que ça pose, évidemment, la question de l'oubli. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un aussi célèbre, qui a fait des choses aussi étonnantes dans sa vie, tombe dans un oubli, mais total. C'est-à-dire qu'on peut jouer là à ça. Qui le connaît? Je doute qu'on le connaisse. Et d'un seul coup, ce type existe avec ce qu'il a fait. Alors après, c'est la façon dont il existe qui est un petit peu plus problématique. C'est-à-dire, je crois en effet que je préférerais lire ces.
Encore une fois, Ruffin l'a beaucoup dit, il romance cette vie.
Oui, bien sûr qu'il romance.
C'est pas la vie réelle.
Oui, mais par exemple, sur la forme qu'il
comprend. Comment il n'était pas fidèle dans la vraie vie?
Il n'y a que ça qui t'intéresse. Hein.
Ben non, mais c'était une remarque.
Non, mais par exemple la forme initiale qu'il donne à ce roman, dont il faut dire que c'est un roman initiatique, d'aventure, philosophique, féministe, politique, historique, chevaleresque, d'amour, avec le cocktail possession-jalousie, et d'amitié, tout ça baigné par l'esprit des Lumières et de l'encyclopédie. Bon, quand même. Bon. Mais il trouve une forme romanesque qu'il ne tient pas. C'est-à-dire, c'est la forme de dialogue de ces deux personnages qui vont chez Benjamin Franklin vieillissant.
Qui se sont inspirés des dialogues de Diderot.
Ouais,
et de...
Et voilà. Mais seulement, il peut passer presque 200 pages sans faire exister ce dialogue. C'est-à-dire qu'on est dans le soliloque des deux personnages, et Benjamin Franklin disparaît. Alors que c'est la donnée d'entrée qu'il a donnée. Voilà ce que je vais faire de ce livre. Je vais vous raconter cette histoire absolument extraordinaire, et ça va être la forme d'un récit final devant quelqu'un de vieillissant et qui est important. Et qui, évidemment, ressorti au genre de la visite au grand homme, il y aura Jefferson qui va passer, tout ça. Mais ça n'existe pas, quoi. Et puis, par ailleurs, c'est très corseté, c'est du grand classicisme, mais, c'est pas déplaisant, mais c'est pas non plus dénué de clichés, quoi. Et puis, parfois, il y a des petits anachronismes. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, on pouvait dire notre couple était fondé sur de mauvaises bases, Michel?
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Notre couple était fondé sur de mauvaises bases au XVIIIe siècle? J'ai un petit peu de doute. Voilà, pas déplaisant. C'est pas déplaisant, ça se lit. Moi, j'ai appris énormément de choses, mais c'est la forme, je trouvais coincé, ça manquait un peu d'huile, quoi.
Ce royaume malgache, par exemple, je ne connaissais pas. Patricia.
Moi, je connaissais pas du tout non plus. Alors pourquoi est-ce qu'il est tombé aux oubliettes? Probablement parce que
Il y a
France pas de colonialiste.
Pour tout le monde,
oui. Non, et puis après, si tu veux, politiquement, il n'était pas du tout correct. Enfin, tu peux pas. Il a quand même été tué par les Français. Oui. Il était anticolonialiste. C'est un homme qui avait des belles idées. Et je trouve que. Alors, c'est pas Jacques le fataliste, mais je trouve que sur le siècle des Lumières, sur l'universalisme et tout ça, il y a quand même des choses très intéressantes. Les personnages existent. Je suis désolée. La dernière fois, on avait dit du mal ici. Enfin, vous aviez dit du mal beaucoup de Checkpoint parce qu'effectivement les personnages étaient ratés. Ici, je ne crois pas qu'on puisse dire la même chose. Afanasie, elle est merveilleuse. Alors peut-être qu'effectivement il y a cette troisième personne qui est censée être là, à qui on s'adresse. Ça, c'est un peu théâtral et c'est peut-être un petit peu factice.
Oui,
mais sinon,
exister.
Je trouve qu'il y a un côté. C'est une épopée un peu malgré tout à l'Alexandre Dumas. Tu peux. C'est pas du Dumas, mais c'est quand même un peu ça. Il y a des accents flaubertiens de l'éducation sentimentale parce que cet homme aussi, il apprend à aimer. Il pense que c'est que l'amour. Et moi, j'ai trouvé que la langue dans laquelle c'était écrit était une langue absolument délicieuse. C'est raffiné, c'est mousseux, c'est léger. Enfin, moi,
Ça se mange sans fin,
exactement.
Je ne serais pas aussi dithyrambique que Patricia, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est un livre qui s'apparente dans les nombreux livres que je n'ai d'ailleurs pas tous lus, à ce livre qui s'appelle Le Grand Cœur, qui était autour de Jacques Cœur, qui était un très beau livre. Et là, on est dans ce répertoire-là, dans ce registre-là, avec des choses très belles, qui sont assez discrètes. Il faut le lire assez attentivement, il faut avoir du temps. Il y a quelque chose dans ce livre qui peut donner envie au lecteur de participer à cette histoire folle.
Même s'ils ne prennent pas de céréales. Hein,
ça, le lecteur, il en manque pas.
J'adore ce mot de Madagascar. C'est dans La Guerre et Paix. Natacha Rostov est accoudée à la fenêtre et elle pense au prince André. Et elle dit, comme ça, pour son propre plaisir, Madagascar, Madagascar. Et ça, c'est super. Et donc, j'aime beaucoup retrouver Tolstoï dans ce roman qui n'a absolument rien à voir, qui répète naturellement, mais qui a en commun le mot de Madagascar.
On est en train de perdre la Jérôme, je pense.
C'est très complexe.
Ah oui, là, c'est...
Très complexe. Le tour du roi du monde...
C'est simplissime.
Le tour du monde du roi Zibline. C'est chez Gallimard.
Et le mot de Zibline aussi est merveilleux.
Merveilleux, merveilleux.
Merveilleux.
Bien, je crois que Tchekhov l'utilise dans une de ses pièces. Zibline, Zibline.
Je te retrouverai le passage.
Oui.
Très bon.
C'est Jean-Christophe Ruffin, c'est chez Gallimard. Allez, une poignée de minutes, vraiment, vous me dites si vous avez aimé. Alors là, pour le coup, un livre très bref. L'ordre du jour, Éric Vuillard, et c'est chez Actes Sud. Il raconte les secrets, les coulisses de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. En 1938, même si évidemment tout ne s'est pas fait en un jour, c'est-à-dire le 12 mars. Et là, donc, il raconte les manœuvres diplomatiques, plutôt les marchandages, une réunion incroyable, secrète d'industriels allemands, une visite du chancelier autrichien en tenue de ski chez Hitler, qu'il maltraite. Il y a des détails, par exemple, incroyables. 1700 suicides qui se produisent en Autriche la semaine qui a précédé l'Anschluss. Oui. Évidemment, la manière dont Ribbentrop a abusé de Chamberlain. Et puis, cette scène... Pour moi, maintenant déjà un peu inoubliable, qui est cet embouteillage de Panzer au moment de l'annexion. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à arriver rangés et en ordre en Autriche. Mais vraiment, en quelques mots, Michel, pour...
Petite merveille, petite merveille. Et alors, parce que c'est une merveille de concision, c'est vraiment...
Ah oui, c'est 150 pages.
Merveilleusement fait. Et il y a un thème central à ce livre qui est extraordinaire. Tu le soulèves en évoquant l'épisode des tanks qui sont sur le bas-côté. C'est le bluff, le rôle du bluff dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait que, alors qu'en réalité on est nul et que les panzers d'Hitler ne marchent pas, enfin tout est absolument pas du tout en état de marche, et c'est pourtant Hitler qui va rafler la mise, et sur le bluff. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est fascinant.
Nelly.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'adore l'écriture de Vuillard. Je pense qu'il pourrait écrire sur tout. Enfin voilà, il y a une écriture, il n'y a pas juste une histoire.
Je trouve qu'il réussit à faire court, exactement comme Echnoz.
Oui, absolument.
Parfois, ses biographies à faire court, avec des sujets fondamentaux, mais en 150 pages. Oui, Nelly, pardon.
Oui, non, c'est très exactement ce que j'allais dire. J'aime beaucoup cette scène. Je crois qu'ils sont chez l'ambassadeur.
Chamberlain.
Avec l'autre qui prend tout son temps, l'allemand qui prend tout son temps au déjeuner, alors qu'ils viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle venant de l'Allemagne. Et l'autre, tout le monde prend pour un imbécile parce qu'ils se disent, mais il comprend pas qu'il doit partir à un moment donné, etc. En fait, c'est absolument rusé, comme tu disais. C'est vraiment un truc de ruse, de bluff et c'est assez malicieux, quoi. Il y a quelque chose de très grave dans ce livre. Il y a quelque chose toujours d'assez, d'assez une façon de rire de l'histoire, mais de façon grave. Je sais pas, il y parvient.
Patricia.
Oui, parce que c'est vraiment un focus sur sur un point aveugle de l'histoire, parce que ce qui est raconté ici, la catastrophe n'était pas encore arrivée. Or, on le lit en sachant évidemment, ayant connaissance de la catastrophe. Donc, ça donne aussi de l'ampleur à l'histoire. Et moi, je trouve que ça sonne très très juste sur cette banalité du mal, avec des passages parfois qui sont archi périlleux, notamment Göring après l'annexion de l'Autriche s'est mis en parallèle avec une scène du procès de Nuremberg. C'est de la haute voltige sur le plan de la mise en forme, parce que en fait, il est à la fois extrêmement... C'est de la littérature. En même temps, c'est presque comme les minutes d'un procès. Ça n'est jamais... C'est une composition, mais ça n'est jamais une transposition. Mmh. Et ça, je trouve qu'il le réussit très, très bien.
Jean-Claude.
Non, je suis complètement d'accord avec Michel. C'est une merveille. C'est un livre extraordinaire.
Et Nelly aussi a aimé.
Oui. Mais c'est pour reprendre le mot merveille. Mmh. C'était juste le mot merveille.
Ils aiment bien citer entre hommes.
Michel a dit c'est une petite merveille. Donc je reprenais ce terme de petite merveille, que je reprends à mon compte. Je suis d'accord avec ça. C'est un petit livre absolument extraordinaire, puissant, sensationnel. Et le style est superbe. Chaque phrase, alors tout à l'heure on a un peu égratigné quelques-uns là, mais alors là, chaque phrase est d'une puissance.
D'une puissance très sobre. Voilà, il n'y a rien de lyrique, il n'y a rien de.
C'est une vision, c'est une version un peu feutrée des damnés, mais la plume, c'est un scalpel à chaque fois. Et on a l'impression en même temps que cet écrivain s'est posté là, sur une chaise, dans des endroits où il s'est passé des choses, un plaid sur les genoux, il a regardé ça tranquillement, il a noté, et il nous restitue quelque chose que personne ne nous avait jamais raconté.
Et Damné, c'est vraiment une transposition,
oui,
si
bien
vous
sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est cet univers-là, crépusculaire, qui part vers le désastre, qui... Moi, j'aime bien citer certaines phrases, mais après tout, c'est sûr. J'adore cette phrase, la concision, tout à l'heure, on a parlé de la concision, mais le diamant de cette phrase, quand il y a eu l'Anschluss véritablement, cette phrase-là, les démocraties européennes opposèrent à l'invasion une résignation fascinée.
Il avait fait, d'ailleurs, Vuillard, un très bon roman.
Sur le 14 juillet.
14 juillet. Et puis aussi sur Buffalo Bill.
Ah oui.
Tristesse de la Terre, oui, absolument.
Très, très bon.
Il a vraiment du talent parce que, il n'a pas été piégé par le fait que nous connaissons la suite et le savoir accumulé. C'est ce que disait Patricia. Et c'est tout à fait exact.
Et il ajoute de l'ironie en plus.
C'est donc l'ordre du jour.
Pourquoi vous ricanez encore ?
Qu'on vous conseille tous. Et c'est Éric Vuillard. Et c'est chez Actes Sud. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On va commencer avec Nelly.
Eh bien, écoute, que je me permettrai d'offrir à Michel, c'est la sortie en poche du premier roman de Jemma Kinnornay, Bright Light, Big City. Et ça, je pense que Michel, si tu ne l'as pas déjà lu, tu vas adorer. Il n'y a
poche,
pas un Kellogg.
Livre de poche ou une
Alors,
expression de
non,
poche
Non, sans livre de poche, je pense que c'est chez Point.
Chez Point.
Et là, Michel, il n'y a pas un Kellogg. Il n'y a pas un cornflake. Okay. Qui traîne. Okay. Il y a de la coke, par contre.
Ok.
Et ça, je pense.
Ça y connaît.
Si tu veux draguer la Canadienne.
Ok.
Non, et c'est son premier livre, parce que Jemakine Horney était comme le jeune écrivain débarqué de la Cambrousse dans son nouveau, dans Les Jours Enfuis. Il débarquait de sa Cambrousse, il connaissait rien à New York, il se sentait exclu de partout. Il a écrit ce livre sur sa vie à New York, de noctambule, de voilà, où il prenait beaucoup de drogue, il sortait beaucoup, tout ça. Et ça a eu un succès, et ça l'a complètement imposé, ça lui a ouvert les portes de Manhattan. Et c'est vrai que le livre qui sort, je ne sais plus s'il sort avant ou après le premier roman de Bret Easton Ellis, Less Than Zero, fait vraiment, voilà, annonce une nouvelle génération
d'écrivains. Et le titre en français, c'est
Alors là, ils ont gardé, à mon grand étonnement, le titre américain sur la couverture.
Ils font comme pour les films, maintenant.
Voilà, ils font comme pour les films. Mais il était sorti avant, donc, chez l'Olivier, sous le titre de Journal d'un oiseau de nuit.
Le conseil de Michel.
Alors, j'ai décidé de changer un peu de lecture.
Je m'inquiète.
Et donc, je me suis jeté, et je n'attends qu'une chose, c'est d'être vraiment en vacances pour le continuer. Vous allez trouver que c'est un peu bizarre. C'est une histoire des monnaies anciennes en Chine, aux éditions des Belles Lettres. C'est un livre fascinant.
Je crois que Patricia a raison, on te perd tranquillement.
Ah, on te perd, là.
Mais non, c'est pas du
c'est
tout.
C'est dans ton château du Gâtinais que tu
c'est
regardes,
vous, c'est
tu
vous, vas vous dire qui ça. Vous égale. Écoutez-moi, vraiment, je vous assure. On ne peut pas le lire en entier, parce que c'est un énorme
non,
livre.
Non, non, non. Pourtant, on a envie. Hein.
Mais c'est absolument fascinant.
Il faut du temps.
Est-ce qu'il y a des illustrations?
Oui, il y a beaucoup d'illustrations. C'est très bien édité. Je ne sais pas comment ils font, Belles Lettres, pour publier des trucs pareils.
C'est aux Belles Lettres.
Trois lecteurs.
C'est aux Belles Lettres.
Et c'est vraiment... c'est aux éditions des Belles Lettres. C'est vraiment un livre absolument fascinant.
Et le titre, c'est ?
Histoire des monnaies anciennes en Chine. Retenez bien ça. Et l'auteur, j'ai oublié le nom de l'auteur... Il s'appelle, je crois, François Thierry, mais j'en suis pas certain. Donc, il faut vérifier.
Imagines invitant à dîner l'avocate canadienne et lui apportant ça en cadeau.
Là, je suis sûr que je ferai un tabac.
Mon conseil, c'est un livre brillantissime qui s'appelle « Cause joyeuse ou désespérée » de Dominique Noguez.
Ah oui,
c'est chez Albin Michel. Alors, c'est un livre qui devrait faire ton plaisir. Il plaide pour Barthes, il plaide pour Sartre, pour la langue française. Étrangement, il y a 10 pages d'éloges de François-Marie Bagnier, mais c'est fait très 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 brillamment, qu'il compare à la fois à Valéry et à Chazot, pour Monterland, qu'il appelle le saint patron des mal-pensants, et puis pour un humour, parce qu'il a beaucoup d'humour et en même temps une très grande érudition. Cause joyeuse ou désespérée, c'est Dominique Noguez et c'est chez Albin Michel. Le conseil de Patricia.
Alors il y a le journal chez Philippe Rey d'Andrei Tarkovski qui a été publié, mais ça c'est un truc assez lourd et assez sombre. Et puis parallèlement à ça, alors c'est pas une prouesse sur le plan littéraire, mais c'est quand même absolument délicieux. Ce sont des récits de jeunesse. C'est son fils qui a retrouvé ça dans des malles à Florence. Il a à peu près une trentaine d'années quand il écrit ça, et il parle de sa mère, de l'Italie, de la Sibérie, de ses compagnons de voyage, des images, des photos, etc. C'est l'autre face, je dirais. C'est son autre face de fraîcheur et d'innocence. Et des textes, il y a des poèmes aussi. Des textes absolument délicieux.
Et c'est chez...
Chez Philippe Rey.
Philippe Rey. Le conseil pour finir de Jean-Claude.
Le livre de l'été. Le vrai livre de l'été. Les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre qui reparaissent sous forme d'extraits.
Alors là, respect.
Voilà. Sous forme d'extraits, tout ça. Je ne savais pas.
Une édition complète en bouquin.
En 10 secondes, qui était Fabre ?
Alors, c'était un entomologue. C'est le précurseur de l'éthologie, c'est-à-dire la science des comportements, des sciences animales. Voilà. Et c'est vraiment. Alors là, c'est sur les insectes. Hein, c'est portrait d'insectes.
Oui.
Et alors, je ne savais pas qu'il avait été proposé pour le prix Nobel de littérature. Alors, tout à l'heure, je vous ai lu des extraits. Là, j'aurais envie de tout vous lire. Tu vas m'empêcher
c'est
de le faire. Tu vas m'empêcher
c'est
de le faire. Mais c'est une merveille chaque. Alors là aussi, toutes les phrases sont extraordinaires. Le premier chapitre d'ouverture de ce choix-là que fait le castor astral, c'est de. Il prend la défense de la cigale, et en expliquant à quel point Jean de La Fontaine a été très 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 mal inspiré d'attaquer la cigale, et que les fourmis sont des êtres absolument abominables, méchants, cruels, et que la cigale a son utilité.
On est saisi d'épouvante à la lecture.
Mais c'est merveilleusement écrit.
Fabre était un scientifique absolument imparable, mais c'était aussi un
styliste,
un prosateur incroyable.
Un styliste, c'est une merveille. Oui.
Mais il y a une édition bouquin à la
voilà. Fin. Il y a eu plusieurs éditions.
On va rappeler juste le titre et l'éditeur.
Portrait d'insectes, Jean-Henri Fabre, c'est au castor astral, ce sont des extraits de ses plaidoyers pour un certain nombre d'insectes, dont la sauterelle verte, la menthe religieuse, les fourmis rousses, les cétoines, le minotaure tiffé,
et le grand pan de nuit.
Et le grand pan de nuit.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Nelly Capriélian, Patricia Martin, Jean-Claude Raspienjas et Michel Crépu pour cette émission, qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet, à la technique, il y avait Olivier Dupré, Fabien Capel, Emmanuel Armingue. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 6 juillet. Je vous attends nombreux à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée aux films de l'été, l'autre aux livres de l'été. La semaine prochaine, on parlera de cinéma. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment, puisque le Masque continue tout l'été.